Vous êtes sur RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Le coronavirus nous pourrit la vie et surtout, nous ne devons pas minimiser la menace. C'est pour cette raison évidemment que la LFP, la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football ont décidé de suspendre toutes les compétitions, dont la Ligue 1 et la Ligue 2. À l'étranger, le tableau noir est le même et nous en parlerons également tout à l'heure, ainsi que des Coupes d'Europe qui sont menacées et l'Euro 2020. Pour en parler justement ce soir avec nous, Stéphane Powels. Bonsoir Stéphane.
Bonjour Denis, une fois.
David Aiello est avec nous également.
Bonsoir mon cher Denis, bonsoir à tous.
Éric Silvestro d'RTL, bonsoir.
Salut à tous.
Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France.
Hello, salut à tous.
Et Cindy Colmenares, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve dans quelques instants sur RTL pour parler de tout ça justement, l'arrêt du football en France, en Europe, dans le monde. A tout de suite.
RTL, on refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h puisqu'il n'y a pas de Ligue 1 ni de Ligue 2. D'ailleurs, nous saluons tous nos camarades du multiplex aujourd'hui en France, le Parisien, Christian Olivier, Philippe Sanfourche et Giovanni Castaldi qui sont au repos, qui nous écoutent. On les salue. Du huis clos décidé pour la Ligue 1 et la Ligue 2, nous sommes passés donc à la suspension du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. La décision a été prise hier matin à 10h30. Le championnat de France a donc rejoint la Serie A, le championnat du Portugal, la Première Ligue, le championnat allemand, le championnat espagnol et d'autres encore. Pas de date de reprise. Des clubs ont suspendu également les entraînements. Certains veulent reprendre le 23 mars. Saint-Étienne, Paris ou ailleurs s'est arrêté. Il reste 10 journées à jouer. Deux finales de coupe. Coupe de la Ligue, Coupe de France. Noël Le Graët a déclaré que rien ne serait joué avant l'été. On va revenir également sur les propos de Jean-Michel Aulas, mais Stéphane Powels. Donc le football est à l'arrêt. C'est une évidence.
D'abord, c'est une évidence. Et puis, secondo, quand je vois le comportement de certains qui n'arrivent pas à respecter ce qu'on demande de faire, c'est mieux. Ben, je m'explique, il y a un match à huis clos au Paris Saint-Germain et il y a quand même un joueur du Paris Saint-Germain qui arrive à passer les barrières pour aller avec les 4000 supporters. On se demande bien ce qu'ils foutent là et faire la fête. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas trop idiot, c'est que les règles sont faites pour qu'on ne contamine pas les autres. Donc, si on fait un huis clos, on fait un huis clos et on ne demande pas aux supporters. Et c'était ça, on est en train de parler que d'autres stades allaient peut-être demander à leurs supporters d'aller faire la fête à l'extérieur du stade, qui est une aberration totale. Le but, c'est qu'il y a des règles qui sont faites par des gens qui sont des professionnels de la médecine. Et si on joue plus au foot, ben, on va plus au théâtre, on fait plus rien parce que justement, il y a un danger. Voilà. Et je trouve, moi, j'ai attaqué sur ça, Denis, parce que j'ai été très choqué, moi, de ce que j'ai vu. On va parler de football après, du match, de tout ce que vous voulez.
Pas de problème.
Mais ce qui m'a dérangé, c'est l'attitude de voir un joueur Kurzawa, pour le citer, qui s'en va, mais est-ce qu'il se rend compte que quel exemple il montre, quoi ? C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'avoir de la sécurité, de l'hygiène, de frotter ses mains, de ne pas s'embrasser.
Des comportements responsables.
Des comportements responsables, nous sommes d'accord, et l'autre, il va faire la fête du slip avec les supporters après le match. Moi, j'y ai été, vous voyez bien, ça m'a agacé.
Voilà, c'était PSG Dortmund, qualification des Parisiens pour la Coupe d'Europe. Les quarts de finale.
Non, je voulais juste répondre un petit peu à Stéphane. Évidemment, déjà, sur le cas Kurzawa, je partage son incompréhension à minima, pour pas dire plus. Après, sur le cas des supporters, c'est vrai qu'on a tous pas compris quand on a vu ces images, on s'est dit mais ça a aucun sens, on marche sur la tête. De ce que j'ai cru comprendre, il y avait une question également qui pour nous paraît pas essentielle mais qui a été certainement au moment de prendre la décision, qui était une question de sécurité publique, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, certainement que les supporters parisiens aller venir et aller se rassembler. Et que, un mal pour un bien, la préfecture a préféré, OK, on organise ce rassemblement, on tolère 1000, 2000, 3000 personnes.
Il fallait pas l'autoriser.
Non, mais je suis d'accord. Pour que ça se passe bien, et en tout cas qu'il n'y ait pas d'incident, plutôt que d'avoir, quoi qu'il arrive, il y aurait eu, de toute façon, les gens seraient quand même venus et qu'il y aurait eu.
Non, mais la raison que tu donnes est la bonne. La raison que tu donnes est la bonne, c'est effectivement pour ça, pour des raisons de sécurité, pour éviter qu'ils soient partout. On a préféré qu'ils soient quelque part. Mais on est donc dans un pays, la France, où on ne pas demander à 4000 personnes de ne pas venir à un rassemblement. On est donc ce pays où quand il y a un risque sanitaire, quand il y a une crise mondiale, il y a une pandémie, ça s'appelle, nous, on est le pays où on dit ah bah non, comme il y a des problèmes de sécurité, on va les réunir.
Alors, but, s'il vous plaît, le but, c'est pas de défendre évidemment les personnes qui sont allées autour du Parc des Princes, mais on va quand même rappeler qu'à ce moment-là, on va dire peut-être que certains n'avaient pas mesuré le danger
certes.
Non, mais
on est tous au même
niveau. Les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes. À ce moment-là, on était encore dans un rassemblement autorisé de 1000 personnes.
Pas 4000 donc.
Non, pas 4000, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'imaginait pas forcément qu'il y ait 4000 supporters.
En même temps, quand
parisiens,
tu dis 1000 ou 4000, déjà, enfin, tu vois, on était déjà dans une forme de.
Oui, mais comme l'a dit
le président, se dire, parce que 1000 ou 4000, finalement,
oui,
qu'est-ce que ça
mais
change?
Mais comme l'a dit, par exemple, Didier Quillot, le directeur exécutif hier, la Ligue 1 avait envisagé un huis clos ce week-end parce que les consignes à ce moment-là étaient le huis clos. Parce qu'on lui a dit, mais c'était pas raisonnable, valait mieux tout arrêter tout de suite. Il a dit, quand on nous a dit qu'il fallait arrêter tout de suite, on a arrêté tout de suite. Donc, on s'en est tenu au règlement. À ce moment-là, les 1000 personnes étaient autorisées. Il se trouve qu'il y en a eu beaucoup plus.
Mais tu sais quand même
qu'à mon avis, c'était
venir,
quand même inattendu. Eric. Et qu'une fois qu'elles sont là, comme tu l'as dit, pour des raisons de sécurité publique, eh ben, on a préféré les laisser là plutôt
que. Bah oui, parce qu'on va pas. En fait, là, un point que vous n'avez pas pris en compte, c'est qu'on ne peut pas ajouter du trouble au trouble. Donc, à partir du moment où les personnes sont déjà là, que cela n'a pas pu être évité, on ne va pas venir les policiers ou les forces de l'ordre venir les arrêter ou éviter.
Mais pourquoi
au moment
tu ne peux pas l'éviter si tu demandes avant qu'ils ne viennent pas,
mais
comme
tu peux,
Dominique
tu peux
quand même
demander,
venu.
Mais regarde, tu demandes également qu'il n'y ait pas des fumigènes qui soient allumés au stade.
Donc, on a donc 4000 idiots. On a donc 4000
idiots. Mais tu sais, en fait, un des points principal par rapport au coronavirus, il faut les prendre en compte, c'est que ça dépend des gens en fait, ce sont les décisions que les gens ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont prendre la mesure? Et à ce moment-là, les mesures, peut-être qu'on avait plus sous-estimé, simplement parce qu'on ne se rendait pas compte de l'ampleur que c'était en train de prendre. Là, la France, c'est en train de monter ces virus, non, mais... un peu comme l'Italie. Mais quoi qu'il
Cindy,
en soit...
Cindy, il y avait déjà des matchs, on jouait pas en Italie, déjà. Il ne faut pas me dire à moi que les supporters du Paris Saint-Germain n'étaient pas conscients du risque de ce virus.
On parle pas des joueurs du Paris Saint-Germain, on parle des supporters. Eux, bah ils ont pris la décision de se déplacer, mais une fois qu'ils sont là, bon bah tu vas et tu dis à chaque supporter, écoutez et vous râlez, vous n'avez pas pu venir.
Ils sont venus
et à partir de ces moments-là,
il y a un match à huis clos.
Simplement pas parler plus fort, ça veut pas dire que tu as raison. Ça veut dire simplement qu'à partir de ces moments-là, tu ne peux pas ajouter du trouble au trouble. C'est ça que je dis. Pas la
cour
de savoir.
Mais Cindy,
mais
tu en as
ajouté. Tu en as rajouté.
Non, mais qu'est-ce que tu voulais que les forces de l'ordre fassent à ces moments-là?
Mais tu ajoutes.
Mais qu'est-ce que les forces de l'ordre pouvaient faire? Non, mais la situation, elle est là.
Elle gère une situation. Quand tu prends la décision de te rendre à un rassemblement qui est autorisé pour 1000 personnes, quand tu sais que tu seras plus de 1000, 1100, et là on est allé à 4000, tu ajoutes du trouble au trouble. Ta responsabilité en tant qu'homme ou femme, c'est de ne pas ajouter un risque sanitaire.
Non mais ça, on est d'accord.
Donc ils l'ont pris le risque, les supporters.
Non mais on est d'accord,
ils l'ont bien pris. Si
mais
le match
personne
n'a mis
ça en question, si on ne parle pas des supporters, on parle de la réaction des forces de l'ordre. Dans ces cas précis, il ne pouvait pas y avoir, tu t'en fous peut-être, mais on ne parle pas. Mais on parle également du foot.
On va pas faire l'émission sur le Paris Saint-Germain Dortmund et sur les 4000 supporters, parce qu'il y a bien d'autres manifestations qui ont été au-delà des 1000 personnes. Il y a eu bien d'autres dérapages, on va dire. Donc, bon, c'est vrai qu'on est là dans le foot. Mais le sujet, c'est la Ligue 1, la Ligue 2. Ça, Eric Silvestro, vous vouliez dire quelque
chose? Non, je voulais juste finir sur ce dossier-là en disant, n'oublions pas non plus que le Paris Saint-Germain a orchestré ensuite la sortie des joueurs. Sur
orchestré ou organisé, ça,
voilà, bah, orchestré, organisé, c'est un peu la même chose.
Non, orchestré, il y a le côté
qui encore plus les supporters, qui les regroupent encore plus. Après, qui en a lui carrément passé entre les mailles du filet de la sécurité. Mais là aussi, on peut se poser la question. Le Paris Saint-Germain a voulu sortir de l'image. Il a fait des très belles photos d'ailleurs de Di Maria torse nu avec les flammes derrière, etc. Magnifique. Mais bon, là aussi, on peut se poser la question.
Bien sûr, mon cher Eric.
De la responsabilité des uns et des autres.
Je reviens sur ce que dit Dominique, c'est vrai. Je reviens sur ce que dit. Je suis d'accord avec ça. Je reviens sur ce que dit très justement Dominique. On est donc dans un pays où on ne peut pas demander aux gens de respecter des règles. Et les règles, c'est on joue pas au football.
Ah, tu peux les demander, mais après qu'elles soient respectées.
Non, si je peux terminer, moi je t'ai laissé terminer.
Stéphane Powell.
Je veux dire que si on demande de jouer à huis clos, eh bien on demande aux supporters de rester à la maison et pas de venir faire les zozos à bord du stade. Ça me semble logique. Et d'ailleurs, heureusement que derrière, il y a des décisions qui ont été prises pour les continuer à ne plus jouer, parce qu'on aurait eu d'autres zozos qui seraient venus à d'autres stades. Et ça va à l'encontre des mesures sanitaires.
Sans être catastrophiste, je crois qu'on va arriver vers un confinement dans les prochaines semaines, ou les bars.
Dans les prochains jours.
Où les bars, les cinémas vont être fermés. Il n'y a pas de raison. Moi, j'adore le cinéma. Je ne vais pas pouvoir casser la porte pour aller au cinéma parce que j'aime le cinéma. Si le cinéma est à huis clos, je n'y vais pas.
T'as Netflix.
En plus, je peux avoir des films.
Amazon Prime, mais
pour répondre à votre question initiale, Denis, moi j'ai évolué sur la question. Moi, la semaine dernière, j'étais encore pour le huis clos. Je pensais qu'on pouvait jouer au foot à huis clos. Quand la ministre a dit que ça devenait la doctrine du sport français, je me suis dit, bon, bah, c'est un moindre mal. Au moins, mon feuilleton continue. Au moins, les matchs continuent.
T'es en train de répondre à la question des supporters. C'est qu'eux aussi, ils ont peut-être évolué. Mais oui, mais ils ont peut-être aussi évolué dans leur réflexion. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il y avait un match, ils ne sortiraient pas parce qu'ils sont plus conscients conscience du risque.
C'est ce que je disais, c'est qu'à l'époque
où les matchs
voilà,
jouaient, bah,
c'était un petit peu, c'était pas pris au sérieux comme ça l'est aujourd'hui.
Oui, il serait vu des gens normaux et conscients.
Il y a quelques jours, quand les matchs étaient à huis clos, je savais qu'il y avait un risque sanitaire dangereux.
Oui.
Je me lavais déjà les mains, je faisais attention.
Oui, mais sauf que toi, tu c'est pas que tu t'en foutais, mais que le PSG soit qualifié ou pas, c'était pas de ton obsession. Tandis que eux, ceux qui sont allés autour du Parc des Princes, leur obsession, c'était de soutenir leur équipe.
Moi, pour mon métier, il valait mieux que le PSG se qualifie.
D'accord.
Et pour le nom de ton journal aussi.
T'as compris ce que je voulais dire.
Et moi, l'obsession, c'est que les gens respectent.
Stéphane Powell.
Et moi, l'obsession, même si je suis content et ravi que le Paris Saint-Germain se soit qualifié, mon objectif, c'est pas que les gens aillent faire le con à côté. C'est de respecter les conditions sanitaires. Elles sont mises en place pour qu'on évite une catastrophe nationale. Ça me semble logique, quoi. Enfin,
on se retrouve dans quelques instants. On parlera justement de la suspension de la Ligue 1, de la Ligue 2, des autres championnats étrangers, des Coupes d'Europe et peut-être de l'Euro. La décision sera officielle mardi. Nous sommes avec, vous avez entendu, Stéphane Powells, Cindy Colmenares, Eric Silvestro d'RTL, Dominique Sévrac, Le Parisien aujourd'hui en France et David Ayellois tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match. On est électrique. On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Jusqu'à 20h avec Stéphane Powell, Cindy Colmenares, avec Silvestro d'RTL, Dominique Servac, Le Parisien aujourd'hui en France et David Aiello. Le championnat donc annulé, en tous les cas suspendu. Didier Quillot, le directeur général de la LFP, et puis Nathalie Bois-de-la-Tour, la présidente de la Ligue, Dominique Servac du Parisien, ont assuré quasiment, c'était leur devoir par rapport aux diffuseurs, par rapport aux supporters, par rapport à un petit peu tout ça, que le championnat irait au bout, même si on doit jouer tous les trois jours jusqu'au fin juin, début juillet.
Oui, j'étais avec Christian Olivier à cette conférence de presse téléphonique, puisque désormais on ne peut plus se déplacer pour les raisons qu'on connaît, donc on fait ça par téléphone et les deux dirigeants ont assuré qu'on irait au bout des championnats. Bon, déjà ils ne peuvent pas dire autrement parce qu'il y a des enjeux financiers considérables, et puis on peut espérer qu'effectivement, avec un peu de discipline, nous, pays latins, mais il n'y a pas que des pays latins concernés, mais avec un peu de discipline, un euro reporté, un ciel qui se libère et une maladie, une pandémie qui décélérerait. Là, pour l'instant, on n'est pas au pic. Malheureusement, on est déjà à 7000 morts, donc c'est compliqué de penser à jouer au football. Ça paraît un peu futile, tout ça. Mais on espère qu'un jour, la vie reviendra, que les stades rouvriront. Et à ce moment-là, peut-être qu'on sera au mois de mai, au mois de juin, et qu'on pourra tout faire. Alors peut-être, ça paraît... Sur un mois, ça me paraît compliqué de faire et la Ligue des Champions et de finir les championnats. Peut-être qu'il faudra aller sur juillet, ce qui posera un autre problème contractuel parce qu'il y a des joueurs qui sont en fin de contrat en 30 juin et qui vont dire, bah, attendez, moi, je veux bien jouer juin-juillet, mais il faut me refaire un contrat alors parce qu'en juillet, je suis pas payé.
Alors, nous, on a eu la chance sur RTL de recevoir Didier Quillot hier soir dans la spéciale d'RTL Sport et au-delà de sa conférence téléphonique du matin. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a cette date butoir du 30 juin. Puisqu'après, c'est une question de contrat, on en parlera peut-être tout à l'heure. Les joueurs qui sont en fin de contrat, il y en a 120 à 130 en Ligue 1. Donc, une fois que cette date est passée, les joueurs sont plus sous contrat avec leur club. Donc, il y a cette date butoir du 30 juin. Encore faut-il que la case de l'Euro se libère, même si ça en prend le chemin, on verra ce que décide l'UEFA mardi soir, ou en tout cas les recommandations de l'UEFA.
Ça fait pas trop de doute.
Là, ce serait possible. Mais attention, là, il faut, pour faire ça, ça veut dire une reprise début mai. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que début mai, même en allant jusqu'au 30 juin et même en jouant tous les 3 jours, on pourra recommencer à jouer les 10 journées à partir du mois de mai. Willy Maisonas a joint Bruno Genesio en Chine, l'ancien entraîneur de Lyon qui maintenant entraîne en Chine. En Chine, le championnat devait reprendre en février. Il y a eu l'épidémie. Aujourd'hui, l'épidémie est en passe d'être éradiquée. Et donc, le championnat chinois va reprendre au mois de mai. Si on calcule bien, ça fait entre 3 et 4 mois de délai. Donc là, si on applique 3 ou 4 mois au championnat de France, pas sûr du tout que début mai, on puisse reprendre. Alors, attention à ça aussi.
Donc la solution a été donnée par le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Saison blanche, on repart à zéro, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain est champion, Lille est deuxième, Lyon est troisième, puisqu'on tient compte du classement de la saison passée, et on va au bout du championnat comme ça.
On gèle le
championnat.
On
sait tous évidemment sur quoi vous allez rebondir.
Non.
Vous n'êtes pas les seuls, puisque Dimitri Payet, le joueur de l'Olympique de Marseille et capitaine de l'OM, évidemment...
Et président maintenant aussi, bientôt.
Évidemment, répondu de manière assez cinglante à Jean-Michel Aulas que c'était une évidence pour Jean-Michel Aulas puisque Lyon n'est pas européen à l'heure qu'il est dans le classement actuel. Stéphane Powells.
Dans mon petit pays, on a pris des résolutions et par exemple le championnat de basket vient donc d'être décidé d'être stoppé définitivement. Donc il va plus reprendre, annulé tout simplement, et donc on a gardé le classement
actuel.
Okay. Voilà. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut arriver même au niveau du foot. Je rejoins ce que dit Eric, effectivement moi je pense que On n'est pas des...
On souhaite que les matchs puissent se jouer, attention.
J'ai quand même l'impression que, vu, et on vient de parler de ce qui s'est passé en Chine, le temps que ça va mettre d'éradiquer malheureusement ce virus, ça va prendre un petit peu de temps. Oui. Donc moi, je pense qu'on ne va plus jouer. Par contre, on en reviendra, je présume que ça va être votre question après aussi, sur l'euro. On est dans un autre contexte. C'est dans des pays différents. C'est peut-être, alors au début, on parlait d'un désavantage, c'est peut-être un avantage.
Non, on en parlera tout à l'heure. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est finir la Ligue des Champions. Il reste des huitièmes de finale, des quarts, deux demi, et une finale.
Alors, tout ce qui est Coupe d'Europe et Championnat étranger, on l'évoquera après. Là, on reste vraiment sur cette Ligue 1. La réponse des dirigeants du football français à Jean-Michel Aulas ont été très claires. Ils veulent aller au bout. Alors, on a bien compris avec Eric Silvestri.
Ils veulent, ils sont pas médecins.
Je suis d'accord avec vous.
Mais c'est normal.
La proposition de l'AS favorise.
Ils disent que la Ligue s'engage à ce que les matchs aillent au bout. Donc,
mais il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est que globalement, le football français, et on peut même élargir au sport français, a pris la mesure de ce qui se passait. Donc, a pris déjà acte, évidemment. Et puis surtout, j'ai envie de dire moralement, en termes d'exemplarité, oui. En tout cas, 99% des acteurs du sport français ont pris la mesure de ce qui se passait. Et donc, en gros, on a entendu également l'appel d'Emmanuel Macron à l'Union sacrée. On observe quand même que ça et là, on a quand même certains acteurs, dont Jean-Michel Aulas, qui placent déjà leur pion d'un point de vue politique. Ouais. J'ai trouvé également la sortie de Villas-Boas à Marseille, pour moi, même si sur le fond on peut le comprendre, je trouve qu'il y a un jeu politique là-dedans, où il s'en remet encore une fois les supporters de l'OM dans la poche.
Rappeler la sortie.
On rappelle juste qu'il a trouvé scandaleux et ridicule la présence des supporters et des ultras parisiens.
Mais il a raison.
Si les Marseillais avaient fait ça autour de son stade, il n'aurait pas dit ça.
Il faut quand même le dire. Voilà, bien sûr. C'est juste David ce que je pointais. Donc je vois que M. Villas-Boas et M. Aulas profitent là de cette situation pour faire passer des messages, etc.
Il y a aussi Mbappé et Neymar qui s'affichent sur les réseaux sociaux avec un masque. Il y a aussi des gens responsables. Il y a aussi des.
Oui, d'accord. Mais là, on est en train de parler. Mais je l'ai dit, j'ai dit que 99% des acteurs.
Mais non, mais il faut aussi dire qu'il y a des joueurs et des clubs responsables qui montrent l'exemple. Marquinhos, Verratti, Mbappé participent à une campagne gouvernementale de sensibilisation au risque, les fameux gestes barrières. Ce sont des icônes populaires. Les gens les adorent. S'ils voient Marquinhos et Verratti et Mbappé se laver les mains, ils vont peut-être se laver encore plus les mains.
Mais Jean-Michel Aulas, tu sais, t'as pas échappé que c'est un dirigeant influent du football français. C'est le président de Lyon. À un moment, je sais pas, un petit peu de hauteur. Et en plus, c'est tellement gros que, mais enfin, il pense tromper qui
Payet aussi doit prendre de la hauteur. Il est joueur. Hein. Je préférerais que Dominique qui mette les masques.
En l'occurrence, il est joueur.
C'est normal qu'il réagisse.
À l'origine, on a Jean-Michel Aulas qui joue parole de Aulas. C'est des dirigeants.
Stéphane, avant de pointer Payet, attardons-nous quand même sur la sortie de Jean-Michel
Aulas. Mais tout le monde parle, Stéphane. Tu peux t'ériger sur le fait que Payet réagisse, mais tout le monde parle. Aujourd'hui, n'importe qui peut dire sur Twitter que finalement, le coronavirus, c'est rien.
Écoutez, ma compagne travaille dans une boîte de 3000 personnes. La boîte a fermé, c'est le patron qui a parlé. Hein. Dimitri Payet, c'est pas lui à parler.
Mais c'est sur un réseau social.
Par rapport à Jean-Michel Aulas, il a dit en cas d'impossibilité de finir les championnats. Et il n'est pas les seuls en Europe. Il n'est pas les seuls en Europe à dire cela. Il y a aussi Carrie Brady qui dit de West Ham, c'est la présidente de West Ham, qui apporte une solution similaire.
Oui, tous les dirigeants dont les clubs sont dans une situation inconfortable.
Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà. C'est que, bizarrement, ce sont les clubs où, effectivement, la position est un peu compromise au niveau du championnat. Mais c'est vrai que dans les clubs, par exemple, comme en Angleterre, on voit que ça dépend aussi.
L'équité, elle est où, on a... Cindy?
Exactement, mais je te rejoins. Il y a des clubs. Par exemple, comme Liverpool, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas gagné les championnats. Là, ils peuvent peut-être les gagner. Donc, forcément, cette solution n'arrange pas.
On verra plus tard la page étrangère.
Le problème,
c'est qu'on est dans un vide juridique. Quelle que soit la solution adoptée, elle sera contestable. C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas dit on fait une saison blanche. Évidemment, tous les clubs qui sont devant lui, et dont l'Olympique de Marseille, qui a besoin d'argent et qui a besoin de retrouver la Ligue des Champions, vont dire l'inverse.
Mais parce que c'est injuste, de toute façon,
mais
à la base.
Le problème, c'est que si tu figes le championnat à la 28e journée, évidemment, il y a des gens qui vont dire ah ben oui, mais non, parce que juridiquement, ça tient pas. Nous, on a joué tous les gros clubs, on devait jouer tous les petits dans les 10 dernières journées, donc on aurait pu repasser devant les autres, ça sera
mais
pas le cas.
Il y a une solution.
Éric Silvestre, les clubs qui sont derniers avant-dernier, Amiens et Toulouse, et Lorient et Lens qui sont. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les deux montent, les deux descendent. Ils vont dire mais attends, nous, on aurait pu encore se sauver. Est-ce qu'on fait monter les deux et on fait 4 descentes l'année prochaine? Qu'on fait des barrages?
Avant que vous donniez votre solution,
toutes les solutions sont possibles.
On a donc découvert à cette occasion que nos grands dirigeants du football français, un peu de démagogie, n'avaient. Il n'existe n'existe dans aucun règlement la possibilité de ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus, qu'une épidémie, une pandémie empêche des championnats d'aller à leur terme. C'est quand même dingue qu'on n'ait jamais pensé à écrire un règlement qui aurait été imparfait, mais au moins on serait en train aujourd'hui de discuter, Denis, de ce règlement. Là, chacun va y aller de son idée. Jean-Michel va dire, on n'a qu'à désigner Lyon champion à la pièce. On a qu'à dire.
Non, mais c'est pas l'OL n'engage que lui, de toute façon.
Sur la période 2010,
elle a rappelé que ça n'engage de toute façon ce qu'il dit Olas lui-même. Ils vont se concerter pour l'instant, et à l'heure actuelle, il s'explique que ce n'est pas la solution qui est prise en compte, mais plutôt de jouer plusieurs matchs par semaine. Et attendons quand même la réunion de l'UEFA. Exactement. Parce qu'à mon avis, il y a des dates qui vont se libérer et ça va pouvoir se faire.
Et encore faut-il pouvoir jouer.
Oui.
Parce que là on part du principe, faut toujours le rappeler, que l'épidemie est passée
si
et qu'on a
joué
un nouveau
mi-juillet,
joueur au football.
Forcément,
pour l'instant,
ça
on
n'en
sait rien.
Pour l'instant,
alors, on va plus jouer. La Ligue, Didier Quillot, dans ce studio hier soir, a dit tout de suite, parce qu'on lui a posé la question des contrats aussi avec les diffuseurs. Si vous ne pouvez pas montrer les matchs, les diffuseurs vont réclamer de l'argent. Il y a quasiment 20 millions pour chaque diffuseur, pour chaque match, sans compter les billetteries et tout ça. Il dit, oui mais non, parce que c'est une décision gouvernementale, donc c'est une décision qui n'est pas de notre fait, donc ça ne casse pas le contrat des diffuseurs.
Alors, est-ce que la solution, c'est pas évidemment d'attendre, c'est une évidence que tout le monde y est obligé, mais d'attendre au maximum et de jouer le maximum de journées et de figer après le championnat, admettons qu'il reste 5 journées à jouer, et ensuite on se dit,
Moi, je suis complètement d'accord avec
Stéphane
ça.
Ça paraît plus juste en tout cas.
Parce que je venais sur l'exemple du basketteur belgique où boum, stop, on a arrêté et maintenant c'est le classement, il est comme ça. Eh bien, moi je suis pour le même principe. Si on peut encore jouer quelques matchs,
on les joue,
et à ce moment-là, j'en reviens sur ce que vient de dire Denis. On arrête et là,
et jouer les finales de coupe d'abord, parce que les finales de coupe pourront éventuellement qualifier le 5e et le 6e pour la Coupe d'Europe, à savoir Reims et Nice aujourd'hui, à moins que Lyon et Saint-Etienne battent le PSG. Mais parce que là, sur deux matchs seulement, on a aussi deux places de Coupe d'Europe qui peut-être seront.
Faut les faire jouer.
On va rappeler deux finales de coupe, Coupe de France Saint-Etienne Paris Saint-Germain et Coupe de la Ligue Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. Donc Jean-Michel Aulas, sa proposition était. C'était juste encore un truc pour se faire.
C'est Jean-Michel Aulas, c'est
pas chauffé. Non, mais en fait, après, ça a été aussi. Évidemment, il y a un petit peu son côté malin, c'est Jean-Michel Aulas. Il est comme ça,
malin,
ces personnages. Mais si vous ne me laissez pas finir ce que je dis,
ça, c'est vrai,
mais,
c'est pas bien. Donc,
voilà. mais il est vrai qu'il est dit en cas d'impossibilité de finir. Et c'est là où Boy de la Tour répond, mais on n'en est pas là. Donc en fait, il essaye d'anticiper, d'aller un peu plus vite que la musique. Ce n'est pas forcément pas la bonne idée quand on est dans une situation où, de toute façon, ce qui prime dans la famille du football, c'est la santé.
Donc vous, la solution éventuellement, c'est de jouer le plus possible.
Et de
s'arrêter et après de figer le championnat.
Ça peut être
une bonne idée. Un petit peu, parce que comme l'a rappelé Eric,
c'est un peu bizarre de recommencer une compétition en se disant qu'elle ne pourra pas aller à son terme et qu'il y a une sorte de course contre la montre à la Jack Bauer. C'est-à-dire que si on reprenait début juin, vous savez que mathématiquement, on pourrait jouer que 5 journées. Je trouve ça un peu bizarre. En plus, si on n'a pas joué pendant 3 mois, dans quel état vont être les joueurs? Parce que s'entraîner, confiné.
Ah, la question de l'entraînement, c'est important. Parce que pour l'instant,
ils
s'entraînent a priori.
Repenser le championnat en mode coupe, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des espèces de barrages pour pouvoir avoir moins de matchs.
Mais ça, c'est très compliqué.
Maintenant, je
reviens à ce que tu dis, Dominique.
Rapidement.
Si à un moment, ils décident de recommencer à jouer, je présume quand même que nos instances, qu'elles soient politiques ou médicales, c'est pas pour dire on arrête dans 3 semaines. Je pense que quand ils vont dire la possibilité, vous pouvez recommencer à jouer au football.
Mais la date du 30 juin.
Oui,
la fameuse date du
mais on
n'a
pas parlé de la question de l'entraînement quand même.
Oui,
parce que là, ils s'entraînent.
On y reviendra tout à l'heure. Merci. Nous sommes avec Stéphane Powell, Cindy Colmenares, Eric Silvestro d'RTL, Dominique Serrat du Parisien aujourd'hui en France. Et David Aiello. Nous parlons également des championnats étrangers, des Coupes d'Europe, Europa League et Ligue des Champions et de l'Euro 2020, sans doute reporté en 2021. Ce sera officiel mardi. À tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL. On refait le match.
On sera mieux.
RTL, il est 19h. L'information, Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. La pandémie de coronavirus avec des chiffres qui s'emballent. On recense désormais plus de 20 000 cas en Italie. 175 nouveaux décès dans les dernières 24 heures selon les derniers chiffres. Aux États-Unis, on compte plus de 2000 cas, 50 morts au total. Donald Trump annonce un test gratuit pour tous les Américains. Il annonce avoir lui-même été testé hier. Les résultats ne sont pas encore connus. L'interdiction d'entrée aux États-Unis va être étendue au Royaume-Uni et à l'Irlande à partir de mardi. Mais les Américains citoyens et les résidents permanents resteront autorisés à rentrer chez eux. En France, une deuxième ministre a été testée positive, la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson. Son état de santé ne présente pas de signes inquiétants selon son cabinet. Avant Brune Poirson, le ministre de la Culture, Franck Riester, avait lui aussi été contaminé. Des nouveaux cas également à l'Assemblée nationale, au moins 3 nouveaux députés, soit un total d'une douzaine de cas pour l'instant. Un premier détenu également contaminé par le coronavirus. Il s'agit d'un homme de 74 ans au centre pénitentiaire de Fresnes. C'est une première en prison. Dès l'apparition des premiers symptômes, il a été conduit à l'hôpital, testé positif, incarcéré en cellule individuelle. Il n'avait pas été en contact avec d'autres prisonniers, affirme le ministère de la Justice. Attention, en cas de contamination, les autorités de santé conseillent de prendre du paracétamol face à la fièvre, mais pas d'anti-inflammatoire comme l'ibuprofène qui pourrait aggraver l'infection. L'épidémie et les risques de contagion qui n'ont visiblement pas empêché plusieurs centaines de gilets jaunes de manifester dans la capitale. Cet après-midi, quelques violences, 34 interpellations. Des gilets jaunes ont également manifesté à Bordeaux lors d'une marche pour le climat, alors que le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 100 personnes pour éviter les risques de propagation de la maladie. Les touristes français bloqués au Maroc vont pouvoir rentrer chez eux, promesse d'Emmanuel Macron. Il assure que des vols spéciaux vont être organisés au plus vite. Le Maroc a décidé de fermer ses frontières alors que le pays reste relativement épargné pour l'instant, avec seulement 17 cas détectés. Les écoles sont fermées, les rassemblements interdits, sauf pour les prières collectives dans les mosquées. Un mois après la démission fracassante de Didier Gayaguet, Nathalie Péchala était élue présidente de la Fédération des sports de glace. L'élection de l'ancienne championne de danse sur glace s'est déroulée dans la confusion. Les 3 autres candidats réclamaient un report à cause de l'épidémie de coronavirus. Martin Fourcade sort par la grande porte. Le champion français du biathlon a remporté sa dernière course. Tout à l'heure, il termine deuxième de la Coupe du Monde. Après 7 titres mondiaux et 5 titres olympiques, le biathlète de 31 ans a décidé de prendre sa retraite sportive. La météo pour demain, des éclaircies sur quasiment tout le pays, sauf sur le nord-ouest. Des pluies fréquentes et des vents assez forts sont attendus sur la Bretagne et la Normandie. Le ciel sera mitigé tout autour entre les pays de la Loire et les Hauts-de-France. À noter en fin de journée et au cours de la soirée, des pluies plus soutenues, voire même de la grêle dans le sud-ouest, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques. Les températures pour demain après-midi, il fera 12 degrés à Lorient. On attend 14 degrés à Beauvais et à Rodez. 15 degrés à Paris, il fera 17 à Châteauroux. 18 à Lyon, 20 degrés à Cahors. Il est 19h03 sur RTL. C'est la suite d'On refait le match. On retrouve Denis Balbir.
Merci Alexandre de Saint-Aignan. Et nous allons parler évidemment de ce coronavirus qui a paralysé le football mondial, avec évidemment tout ce qui se passe dans les championnats européens, les arrêts de la Première Ligue, de la Serie A, du championnat allemand et championnat espagnol. Que va-t-on faire des Coupes d'Europe? Que va-t-on faire de l'Euro 2020? Nous y répondrons avec Cindy Colmenares, Eric Silvestro d'RTL, Dominique Servac du Parisien aujourd'hui en France, Stéphane Powels et David Aiello. C'est Luc Adindle qui est à la réalisation. Bonne soirée à toutes et à tous et restez avec nous jusqu'à 20h.
Denis Balbir sur RTL, on refait le match.
Voir Renault.fr.
Denis Balbir sur RTL,
on refait le match.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Stéphane Powell, Cindy Colmenares, David Aiello, Eric Silvestro d'RTL et Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France. On va conclure sur le championnat de France. Donc évidemment, on avait émis ce vœu, comme les dirigeants, que ce championnat aille au bout. Mais c'est vrai que, comme on l'a dit avec Eric Silvestro notamment, on ne sait rien finalement quand ça va reprendre, quand la pandémie va s'arrêter, quand le pic va descendre alors qu'il n'est pas encore à son maximum malheureusement. Dominique Sévrac, on va conclure sur ce championnat de France. Je l'ai maintenant alors.
C'est une possibilité. Laissons-nous le temps de voir l'évolution. Ils avaient pour l'instant inscrit les 8 clauses jusqu'au 15 avril. Donc c'est qu'ils pensaient que à l'arrivée du printemps, des beaux jours, la pandémie reculerait. Bon, voyons voir ce qui se passe dans un mois. Laissons-nous au moins un mois.
Eric Silvestro d'RTL.
Moi, je pense qu'il faut attendre. Voilà. Et si on peut jouer début mai. Et en effet, jouer sur 3 jours, encore une fois, si l'euro est repoussé, pourquoi pas? Sinon, eh ben, on gèle. Par contre, il faut trouver un système pour les accessions et les descentes. Parce que je pense que ça pose un vrai problème, avec sachant que les droits télé explosent l'année prochaine. Mmh. Il y a des vrais enjeux économiques. Il faudra trouver la bonne solution pour les deux derniers et les deux premiers de la Ligue 2.
Cindy Colmenares.
Mais ça va être très simple. La santé d'abord. Donc, il faut attendre et prendre le temps de voir ce qui se passe.
Stéphane Powell.
Je ne suis pas encore Madame Irma, donc je n'ai pas encore de boule. Donc, on espère qu'on rejoue. Mais si on nous dit confiné pendant 3 mois, ben, on va juste se taire. et rester au chaud à la maison.
David Ayello.
Moi, il y a quelques jours, je pensais qu'on allait plutôt vers une annulation des compétitions. C'est vrai que là, entre-temps, les choses ont bougé, mais je pense plutôt qu'on va aller vers une annulation totale des compétitions.
Alors,
ça ne reprendra pas.
Aussi, Denis, vous avez vu, dans le timing en France, c'est jusqu'au 15, c'est ça? Vous m'avez dit, c'est quoi la date?
Ils avaient mis les huis clos.
En Belgique, le 3. Donc, dans chaque pays, on a mis une date. Ça veut dire que tout le monde, même d'après la situation du pays, des cas... Ils savent pas trop, quoi. Je pense qu'ils
Je vous donne une information qui est tombée sur Marca tout à l'heure. Ouais. Alors, est-ce que c'est une information ou plutôt une hypothèse? En tous les cas, en Espagne, le championnat serait gelé et donc arrêté au jour d'aujourd'hui avec un Barcelone sacré champion ce soir, enfin, en tous les cas, ce week-end. Pareil en Allemagne.
C'est une grosse info.
C'est Jean-Michel Aulas qui va pas être content.
Pareil en Allemagne, apparemment. Et en Angleterre, il y aura une grosse réunion lundi où le titre de Liverpool devrait être
validé.
Avec également des équipes qui seraient promues. Et on jouerait la saison prochaine à 22 avec 5 descentes
c'est
à la fin
de 2021. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour ne pas pénaliser les clubs de Ligue 1.
C'est le président de la fédération de
non, moi, ils ont pris
foot anglais qu'il a déclaré au journal Le Guardian
également.
Il y a quand même d'autres options.
Puisqu'on supprime la Coupe de la Ligue la saison prochaine, donc nous c'est possible, on a des dates qui vont se libérer de jouer à 22 effectivement.
Il faut faire attention, comme il y a un élément qu'on n'a pas évoqué,
David Ayello,
qui est peu évoqué jusqu'à présent, c'est qu'il faut se souvenir que dans 2 ans, les calendriers vont être modifiés à cause de la Coupe du Monde au Qatar prévue. Très bien pour l'instant.
Bonne observation.
Au mois de décembre. Donc on a la saison d'après, mais il faut voir loin. On a quand même déjà aussi des calendriers.
Oui, mais là, c'est à court terme. C'est-à-dire, tu joues à 22 la saison éventuellement, et il y aura 4 descentes.
Jouer à 22, ça veut dire.
C'est pour
ne
pas pénaliser les clubs qui iraient directement en Ligue 2 alors que le championnat ne s'est pas terminé. Et ça aide quand même les clubs de Ligue 2 qui, eux, sont promus.
J'ai dit juste que jouer à 22, ça veut dire plus de journées.
Mais avec la Coupe de Ligue en moins, comme dit Dominique.
Mais par contre, comme dit Denis, ces championnats ont déjà tranché en Espagne et en Angleterre. Ça veut dire
c'est des hypothèses.
Oui, ce sont des hypothèses.
Mais s'ils le font, ils vont avoir beaucoup plus de facilité qu'en France pour pouvoir gérer leur fin de saison. Transfert, joueurs qui veulent se barrer, fin de contrat. Parce que si tu dois encore jouer. Pour passer à table avec les joueurs, c'est compliqué quand même.
Et j'espère que le scénario de Marca, les Français l'ont envisagé. J'espère que des dirigeants français, au-delà de Jean-Michel Aulas qui veut que Lyon soit champion de France décrété ce soir à 20h sur RTL.
Avec 15 points d'avance.
Parce qu'au nom du mérite, en fait, où tous les maillots blancs doivent être champions de France, je ne sais pas exactement quel est le critère. Non, mais j'espère que les dirigeants français imaginent une sortie de crise eux aussi en se disant est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui est champion? Parce que Liverpool et le Paris Saint-Germain ont tellement de points d'avance,
c'est ça,
que ça me paraît assez logique qu'on décrète que Liverpool et après dans il y a d'autres
choses. Je pense que c'est aussi pour ça que le président de la fédération anglaise Greg Clark le dit.
Voilà. Après,
voudrait valider cette
option. En revanche, en Allemagne et notamment en Espagne où il y a quand même un coup d'à-coude entre le Real, une semaine sur deux, c'est le Real et le Barça qui passent devant. Ça me paraît beaucoup plus compliqué de décréter d'ores et déjà aujourd'hui que c'est Barcelone ou le Real ou qui est champion.
Tout à fait. La Serie A a été la première à s'arrêter. Des joueurs sont contaminés à la Juve, à la Sampdoria, à la Fiorentina. Aujourd'hui, il y a le président de la fédération serbe, Saviza Kokeza, qui a été révélé positif. Deux membres du staff également du club d'Alaves. En Angleterre, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal. Ça fait beaucoup. Donc, les options anglaises, on les a vues. Il y a Karen Brady, Cindy Colmenares en faisait référence tout à l'heure, la vice-présidente de West Ham, qui donne une chronique dans The Sun tous les dimanches ou tous les week-ends, en tous les cas, qui évidemment voudrait que la saison soit annulée. Ça l'arrangerait bien parce que son club est sur le point d'être relégué. Donc on va se diriger plutôt en Angleterre vers une décision de toute façon lundi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette possible décision de sacrer déjà Liverpool et donc de figer cette saison?
Mais moi personnellement, si il n'y a justement pas ce mano à mano comme en Espagne pour un titre et que Liverpool est quand même, ce serait quand même un grand malheur pour qu'il ne soit pas champion, je trouve que ce serait une décision très intelligente justement pour directement clarifier la situation et préparer l'avenir. Mais ils sont dans cette position-là où ils ne sont pas dans des guerres, ils n'ont pas de Jean-Michel Aulas.
Non mais là, Dominique Sévrac le rappelait, Liverpool, là, je ne sais pas combien de points d'avance.
Mais c'est ce que dit.
Oui, mais
donc
là où c'est
facile
aussi
de prendre cette décision.
Le championnat d'Angleterre et tous les autres championnats, ce n'est pas que le titre de champion. Il faut aussi attribuer au même moment les classes qualificatives, qui va descendre, qui va monter. Donc c'est là où c'est plus compliqué. Moi, ce que j'observe, une fois qu'on a dit tout ça, quand même, c'est que la solution la moins mauvaise, la plus juste sportivement, c'est quand même de s'arrêter au moment, que ce soit après 25, 30 ou 32 journées, un moment où des matchs ont eu lieu, plutôt que de s'abriter derrière des pseudo-règlements. On prend la saison dernière, on prend les 5 saisons dernières, ça n'a aucun sens. Il y a quand même des matchs qui ont eu lieu.
J'attends de voir quand même en Angleterre, parce qu'il ne vous aura pas échappé que les 4 premiers sont qualifiés pour la Ligue des Champions en Première Ligue, et que le 5e aujourd'hui, c'est Manchester United, qui est revenu à 3 points de la 4e place. Ce qui veut dire à une victoire. Et Manchester United, c'est quand même un club qui pèse, mine de rien. Et je pense que Manchester United, un peu à la Jean-Michel Aulas, ne va pas forcément... Même si eux, ils ne peuvent pas jouer le championnat, parce que l'année dernière, ils ne jouaient pas...
Mais en tout cas, une petite sortie.
Bah, je pense que Manchester United ne va pas dire « Ah, très bien, on gèle le championnat, nous, on joue que la Ligue Europa. »
De toute façon, pour être plus clair, il n'y a que 3 options. Soit il y a l'option Liverpool sacré, il y a un championnat à 22 la saison prochaine, ou alors le classement actuel qui compte, ou alors la saison blanche. Donc il y a pas.
Ah non, il peut y avoir la solution. On attend et on voit si on peut jouer des matchs avant juin.
C'est en contradiction avec tout ce que vous venez de dire.
C'est la solution prônée par les dirigeants de la Ligue, notamment, quels que soient les dirigeants.
Et comment vous faites si vous jouez en juillet? Alors vous pouvez pas, puisque vous avez expliqué à juste titre les fins de contrat, etc.
Pour l'instant, il n'est pas dit qu'on ne puisse pas jouer en mai, en juin. Aujourd'hui, les ligues.
Vous avez clairement tout à l'heure expliqué que la Chine avait mis 4 points pour s'en remettre.
J'ai dit que j'ai des doutes là-dessus, mais vous ne pouvez pas empêcher les dirigeants de la Ligue de dire on va jouer. Président Lopez, aussi, le président de Lille, vient de dire moi je suis prêt à jouer tous les 3 jours au mois de juin jusqu'au 30 juin.
Bon, bah, ouais,
au mois de juin, alors, mais on ne sait pas si ça pourra
recommencer. Je suis d'accord.
Il faudra bien se décider à un moment donné.
On est en train de faire des calculs, des possibilités. Il y a quand même toujours le plus important, c'est donc cette maladie, et il y a donc des spécialistes qui s'en occupent. Et je pense que si je raconte ça, c'est qu'en Espagne, vous avez quand même bien vu qu'ils sont beaucoup plus impactés que la France, hein, ils sont quand même.
C'est les deuxièmes les plus impactés après l'Italie.
Ils sont très touchés, donc forcément, dans leur réflexion même foot, ils vont plus vite que nous, en se disant avant de pouvoir guérir, il y a tellement de cas.
Stéphane,
arrêtons que nous, on est encore en se disant tiens, est-ce qu'on pourrait éradiquer cette maladie assez rapidement?
Si tu prends la santé publique et les gens et le coronavirus. Il y a tout le monde décide la même chose, on annule tout, les championnats sont finis et basta, on se concentre que sur l'épidémie.
Mais tu vois, par rapport à la graduation.
Et c'est sans doute ce qui devrait être fait, parce que le problème, on le sait tous, on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a de tels enjeux économiques en jeu qu'il y en a certains qui préfèrent se laisser des portes de sortie pour voir si on peut récupérer encore.
Eric, d'accord, mais si demain, imagine, et je ne le souhaite pas, mais que demain, il y a tout d'un coup. Une progression terrible de cette maladie en France, on va plus parler de la même manière, on va parler peut-être comme les Espagnols.
Je dis juste que là, à l'heure actuelle, ce qui est annoncé aussi bien en Angleterre qu'en Espagne, pour l'instant, on n'a pas encore entendu les ayants droit, c'est-à-dire les diffuseurs, se positionner. Et eux, ils ont aussi une économie et des entreprises à faire tourner. Donc, ils vont défendre leur beefsteak.
Pardonnez-moi, mais alors c'est parce que...
Non, mais je ne les défends pas.
Bien sûr, c'est bien que tu ne les défends pas. Mais moi, pardonnez-moi, les enjeux économiques, j'en ai rien à cirer.
Mais nous, c'est pas le Mexique, en tout cas.
S'il y a des gens qui meurent, voilà. Moi, je suis pour, en fait, pour moi, la saison, c'est un feuilleton. Si le feuilleton, il s'interrompt un mois... 3 semaines, un mois et demi. Pour moi, c'est fini.
Okay.
En fait, je suis pour qu'on gèle. C'est une saison blanche pour moi.
Plus belle la vie. Quoi.
Pour moi, il y a pas.
De toute façon, c'est l'expression de Jean-Michel Aulas.
Non, mais c'est la saison blanche. On gèle la saison. C'est pas pareil.
Non, saison blanche. Il y a pas de champion de France. Il y a pas de numéro 1. Il y a pas de numéro 2.
On commence
pas...
à zéro.
C'est là le combat. C'est la saison blanche. Non, cette saison, tu n'auras pas eu lieu.
Tu fais comment l'année prochaine? Qui va en Coupe d'Europe?
C'est un tirage au sort.
On verra après. Mais s'il faut prendre une décision.
Tout le monde a bien
égalité.
Pourquoi les 30 matchs qui ont eu lieu ne comptent pas?
Bah parce que ils ne vont pas au bout du feuilleton. Le feuilleton, c'est pas 30, c'est 38.
Je vous entends parler depuis un certain temps.
Si une série Netflix se tourne 30 épisodes et pas 38, parce qu'elle en veut, il y a à la fin le.
Quelquefois, il y a des saisons.
Tu te souviens de Lost? Oui, mais elle existe pas. De Lost in La Mancha?
Sidney Coleman, arrête rapidement, s'il vous plaît.
Oui, non, je vous entends parler du futur depuis quelques minutes maintenant. Et en fait, on n'a pas parlé aussi du présent, ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la décision, c'est qu'en France, en tout cas, ils ne vont pas jouer des matchs, mais les entraînements continuent. Et il ne faut pas oublier que si la Liga a pris la décision qu'elle a prise, c'est parce que lors des entraînements de l'équipe de basketball qui, par hasard, s'entraîne au même endroit qu'il s'entraîne l'équipe du Real Madrid, il y a eu ces risques de contamination et ces cas d'un joueur de basketball qui fait que ça a amené de la peur au collectif et c'est pour ça qu'ils sont en quarantaine.
Tu veux en arriver
et donc, ne sois pas mal poli.
Et donc, tout ça pour dire que
ce qui est important, c'est poser la question par rapport à maintenant. Est-ce qu'on continue, du coup, avec les entraînements, en sachant que les joueurs, ils sont des familles, ils peuvent éventuellement eux-mêmes être contagiés, arriver, contaminer d'autres, ou est-ce qu'on arrête également les entraînements? Parce que ça, c'est la question que je me pose souvent.
Il y en a qui ont arrêté les entraînements.
Mais non, mais c'est pour ça,
pas tous.
On va faire une petite pause, s'il vous plaît. On va faire une petite pause. On reparlera de cette championnat espagnol, du championnat anglais, du championnat italien également. quand, quand la reprise évidemment on ne le sait pas. On parlera également de l'Euro et des Coupes d'Europe dans quelques instants sur RTL avec Cindy Colmenares, avec Silvestro d'RTL, Dominique Sérac du Parisien aujourd'hui en France, Stéphane Powels et David Aiello. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
T'as vu ma Dacia
électrique.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Cindy Colmenares, Eric Silvestro d'RTL, Dominique Sérac du Parisien aujourd'hui en France, Stéphane Powels, David Aiello. Nous avons un petit peu fait le tour de, ces, ce problème hein, qui évidemment touche le football mondial. Alors, il y a deux choses qui ressortent finalement, c'est garder l'équité sportive et également atténuer les enjeux financiers. Dominique
Sérac. Le foot Dominique et Sérac. Le sport dans tout ça, c'est pas très important. Moi, c'est ma
oui, j'ai compris.
C'est ma thèse. Moi, j'aime le sport. C'est une passion. C'est des émotions. À partir du moment où il se passe un truc qui touche le monde entier, où on ne peut plus jouer au sport, bon bah on rejouera au sport quand la vie sera revenue. Mmh, et là, la vie n'est pas revenue, donc on arrête le sport et on fait saison blanche partout, quoi. En NBA, j'ai l'impression qu'ils se posent beaucoup moins de questions. Il y a un cas, ils arrêtent tout.
Et pourtant, il y a de l'enjeu.
Et pourtant, il y a de l'enjeu financier.
Beaucoup d'enjeux.
Ça me semble beaucoup plus fortuné.
Oui, tu as raison, il y a des enjeux en NBA, beaucoup. Mais il y a aussi des franchises figées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montée de descente en deuxième division. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, hormis les play-offs de fin de saison. Mais là, les play-offs seraient annulés. C'est-à-dire que tu as quand même la garantie en NBA, le championnat s'arrête cette année.
C'est que tout le monde soit là.
Mais même si tu es 15e ou dernier, regarde les Golden State Warriors qui ont été multiples fois champions, ils sont derniers. Bon, si le championnat s'arrête, l'année prochaine, ils reprennent le championnat. Il n'y a pas de risque de perte
donc
de franchise.
Donc il faut qu'on fasse un championnat fermé aussi en Europe.
Et le problème des championnats ouverts, c'est que ça crée des frustrations. Et surtout cette année, avec les droits télé qui explosent encore plus que d'habitude.
Mais donc ce qu'on fait alors, on fait...
Stéphane Powels.
On arrête tout, puisqu'on en revenait tout à l'heure sur les entraînements, puisque ça devient compliqué pour tout le monde. Parce que on va bien avoir un joueur.
Mais risqué.
Ça va bien arriver.
On va rappeler quand même que certains clubs, comme celui de Saint-Etienne, a décidé de reprendre, et pareil, l'entraînement le 23 mars. Ça paraît...
On verra. Je pense que c'est dans
ça
paraît improbable.
Comme dit Sylvie, ça peut arriver. Donc si tout d'un coup, on a un joueur demain, qu'est-ce qu'on fait?
Attention, n'oublions pas qu'aujourd'hui, les entraînements, même les clubs qui souhaiteraient s'entraîner, c'est 10 personnes maximum.
Et oui.
Et comment tu veux s'entraîner à 10?
Non, mais dont l'entraîneur ou le préparateur physique. Donc, ça veut dire que c'est des groupes de 10. Des groupes de 8. Donc, qui vont s'entraîner. Alors, les attaquants le matin, les défenseurs l'après-midi, les milieux de terrain pendant la sieste.
Donc, est-ce que c'est pas plus simple, tout simplement,
de Stéphane Powels.
C'est dur ce que je dis, mais de tout arrêter. On arrête tout. Et puis, on fait alors, pour faire plaisir à Jean-Michel Aulas, ça c'est une boutade, on recommence à zéro, comme il a dit l'année prochaine, avec les mêmes. Mais non, mais avec les mêmes. On reprend le même championnat. Et il n'y a pas d'équipe qui monte.
Alors. Sur la Coupe d'Europe, le Paris Saint-Germain s'est qualifié brillamment. David Aiello nous demandait absolument d'en parler, de souligner.
Non, mais il me semblait que c'était un peu. On n'a plus beaucoup de sport à se mettre.
Il était tellement content
de la Ligue des Champions. On va forcément balayer la Coupe d'Europe. Les Coupes d'Europe, qu'est-ce que ça va devenir? Le Juve-Lyon, la qualification du PSG en quart de finale.
Non, mais déjà, bon, il va y avoir un événement mardi. Très très probable qui est le report de l'Euro qui effectivement va permettre de donner un petit peu de latitude en tout cas jusqu'au 30 juin à l'UEFA pour organiser la fin de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa. Là, ça sera un premier pas. Ensuite, on sera toujours de toute façon tributaire de la suite de l'évolution de l'épidémie. Ceci dit, il y a là aussi, on a évoqué tout à l'heure des hypothèses d'aménagement de calendrier. Il y a une autre hypothèse toute simple qui serait de plus faire les matchs aller-retour, les huitièmes, les quarts de finale et les demi-finales, sur les faire un match soit sur terrain neutre, soit sur un seul match par tirage au sort. Ça réduit le nombre de matchs. La possibilité de faire un Final Four également avec quatre équipes. Enfin, il y a quand même des hypothèses qui laissent
entrevoir. Pour moi, la Coupe d'Europe, là, il n'y a aucune importance. C'est-à-dire que la Coupe d'Europe, on décide de l'arrêter, il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année, il n'y a pas de champion. En Coupe d'Europe, il n'y a aucun enjeu de suivi l'année d'après. C'est-à-dire que tu peux très bien dire cette année, c'est une année blanche, Coupe d'Europe annulée, il n'y a pas de vainqueur de Ligue des Champions. Ça n'a aucune incidence.
Eric,
en championnat, si vous figez le championnat, ça a une incidence.
C'est faux, c'est faux. Eric, tu sais pourquoi le vainqueur de la Ligue Europa est qualifié pour la Ligue des Champions.
Tu sais pourquoi je rigolais parce qu'avant que tu fasses cette sortie là, c'est de me dire aussi mais on a l'impression, c'est pour ça que je souris avec David, c'est parce que Paris a gagné un match et qu'ils se sont qualifiés en quart que cette Champions League ne pourrait pas s'arrêter. Mais on s'en fout de cette Champions League. Des raisons de santé. On arrête, il n'y a pas d'enjeu. Alors, et quoi, il n'y a que les Parisiens qui vont pleurer.
Mais non, mais Stéphane, déjà, je te réponds quand même.
Cindy, ce qu'elle paraît dépitée.
J'ai été attaqué par M. Powels à l'antenne d'RTL.
On
ne
peut pas faire check.
Cindy Colmenares.
Oui, non, enfin, pour moi, ce n'est pas juste les PSG. C'est qu'à l'heure actuelle, là, par rapport à ce qui se passe, la question, elle s'est pose pas là. Il y a des dates qui vont se libérer au niveau déjà de l'euro. Et là, pour moi, y a la question ne se pose pas, en tout cas au jour d'aujourd'hui, par rapport à la Champions League.
Comme avec les autres.
Bah, pose, Cindy.
Mais ça ne concerne pas
des autres. Se pose autant que les matchs de championnat. Si
oui,
on...
mais ça ne concerne pas que les PSG. C'est tous les matchs qui seront impactés.
Est-ce que je pourrais avoir mon droit de réponse, Monsieur Balbière?
Oui.
À Yellow David.
Non, évidemment qu'on est d'accord que la Coupe d'Europe, c'est le moindre de nos soucis actuellement, et y compris sportivement.
Mais à ce moment-là,
ce que je disais juste, cher Denis, c'est que si le report de l'Euro à 2021 permet d'avoir un mois de calendrier, et que d'ici là, c'est-à-dire là, début juin, la pandémie s'est calmée, bah allons-y, trouvons une solution pour y aller.
10 journées de championnat, les finales de coupe, 8 matchs de Ligue des Champions. Bah non, le calendrier n'est pas extensible.
Sauf que tu l'as dit.
Tu gèles le championnat.
Si on gèle le championnat, on peut jouer.
Mais moi, je privilégie l'intelligence de geler la Coupe d'Europe qui n'a encore.
Il y a moins de matchs de Coupe d'Europe que de championnat.
Alors, s'il reste qu'un mois et qu'on ne peut pas mettre le championnat, on fait les 4 matchs de Coupe d'Europe qui restent, pourquoi pas. Mais sinon, je préfère jouer les championnats parce qu'il y a des enjeux dans toute l'Europe financiers à plusieurs étages, alors que la Coupe d'Europe n'a aucun enjeu.
Il paraît quasi certain qu'on n'aura pas le temps. Mécaniquement, en 30 jours, il y a combien de jours en juin? 30.
Attends, je vais regarder.
De tout faire. Ça sera impossible de tout caler. Donc, à partir du moment où on ne pourra pas aller au bout des championnats, parce qu'il ne restait pas 2 journées, il en restait combien? 10
30 jours.
30 jours. Mmh.
Mais on le saura que début mai.
Jouons que ce qu'on peut jouer, et encore, éventuellement, parce que je vous dis, moi, quand des joueurs s'entraînent pas pendant 2 mois, le moment où ils vont reprendre, ça va donner des matchs sans queue ni tête, des matchs qui vont être improbables. À la fin, c'est peut-être l'Atalanta.
Les mecs s'entraînent à 10, Dominique. Ils doivent préparer des matchs
qui vont gagner avec des champions.
Ça serait une bonne leçon pour le football.
Mais ça serait génial.
Moi, je dis que le Godoret, ça peut être un bon vainqueur de l'UEFA.
Franchement, si on peut pas jouer au foot,
il y a deux stars du football mondial qui ont livré un message aujourd'hui. C'était à la une de Tutto Sport, le journal turinois, Cristiano Ronaldo. Ne sortez pas, je vous parle en tant que joueur, mais aussi en tant que fils, père et être humain. Et Lionel Messi aussi, qui a fait une longue déclaration sur son compte Twitter pour justement privilégier l'aspect humain à l'aspect sportif. Donc pour vous, les Coupes d'Europe...
On chambrait un peu David, c'est bon enfant.
Le PSG se qualifie pour les quarts de finale.
Mais voilà, ça fait 3 jours qu'il dort plus, ce garçon.
Il fait 6 ans qu'il attend la Coupe d'Europe.
Il est beau comme un camion.
On peut sourire un peu. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on disait qu'ils avaient vaincu la malédiction.
En quart de finale.
Et là, ils vont peut-être pas pouvoir aller plus loin.
Surtout après avoir connu tant d'histoires juste auparavant.
Mais si on enlève vraiment ça, quand je dis que tout le monde s'en fout, il y a d'autres clubs qui aimeraient bien gagner aussi la Champions League. Donc il n'y a pas que Paris. Mais je pense qu'il faut être plus raisonnable. Alors, il faut l'arrêter, cette compétition. Pour la raison que dit Eric, très juste, c'est que ce n'est pas compliqué de l'arrêter.
Ça
ne changera rien.
C'est
pour vous.
Vous avez fini?
C'est vous le patron.
D'accord. Alors on va parler de l'euro après, parce qu'il y a une information qui vient de tomber. On la verra, on la décortiquera avec vous dans quelques secondes. Cindy Colmenares est là, Eric Silvestro d'RTL, Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, Stéphane Powels avec son gel. C'est très bien votre geste très civique. Et David Ayello, à tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Tout Dynamics. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Cindy Colmenares, Stéphane Paulès, David Ayello, Eric Silvestro d'RTL, Dominique Sévrac du Parisien. Une information donc qui vient de tomber, qui vient du site The Telegraph, le journal, le quotidien britannique, l'UEFA, qui étudierait la possibilité de repousser l'Euro 2020 en décembre 2020 pour se caler un petit peu également sur ce qui va se passer plus tard pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est une hypothèse donc que l'UEFA va étudier peut-être mardi, lorsque l'UEFA décidera justement de l'avenir des Coupes d'Europe et de l'Euro 2020, donc soit l'été 2021, où il y a également l'Euro féminin en Angleterre du 11 juillet au 1er août, la Coupe du monde des clubs, et le décembre 2020, évidemment, pourrait évidemment être attribué.
On sait qu'il y a une bataille historique FIFA, UEFA, et donc la FIFA ne permettrait pas à l'UEFA de tenir ses compétitions, ou fera tout pour l'empêcher de décaler ses compétitions. Donc on voit quand même que dans des périodes comme ça,
Dominique,
on pourrait s'entendre. Et pourtant, Gianni Infantino et Seferin vont sûrement se faire une petite guéguerre à distance.
Et moi, la première réflexion qui me vient, même s'il y a eu le Brexit, c'est que la première ligne, s'il y a l'Euro en décembre, Boxing Day, toute la tradition, le championnat le plus riche d'Europe, etc., etc.,
Enfin, ça, la tradition, à un moment donné, il y a des,
ah bah
des urgences.
On en reparlera. Oui. Vous allez, la première ligue va dire oh, pas de problème, mais l'euro en décembre, aucun souci, on applaudit demain.
Comment ils font alors en 2022
Ils ont prévu de la maintenir.
Leur tradition.
On en reparlera.
Non, mais la solution peut-être la plus possible, ce serait de les décaler à l'année prochaine, parce que s'il est question de la Coupe du Monde pourrait aussi se jouer peut-être 6 mois plus tard. Enfin, elle pourrait être décalée dans les temps par rapport à l'euro. Enfin, je ne vois pas pourquoi faire la demi-mesure. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire ce qu'on a fait déjà en France, en Italie, c'est de décaler, de ne pas prendre des vraies mesures, de jouer d'abord les huis clos, puis de se dire finalement on décale. Pourquoi on ne prend pas la vraie décision de la décaler à non ?
Parce qu'il y a la Coupe du Monde
décalée. Parce qu'il y a la Coupe du Monde décalée. Et une hypothèse, Denis.
Stéphane Powels.
Je l'ai posé hors antenne, mais je pense que c'est intéressant. Et je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est possible, imaginable, qu'on ne dit pas d'euros ? Et quand je dis pas d'euros, plus d'euros. C'est-à-dire qu'on attendra.
Mais ouais, mais.
Je pose la question.
Tu as des sponsors, tu as des ayants droit, oui. Donc télé, qui versent des centaines
la
de millions.
La FIFA
d'euros.
Vient de également là, demander à ce que les matchs préparatoires amicaux, les Espagne-Allemagne, Allemagne-Italie, etc., soient annulés en mars et avril. Ça, c'est déjà quelque chose. Les éliminatoires de la CAN qui sont. Reporté également, qui devait avoir lieu fin du mois. Donc on attendra évidemment mardi, mais on se dirige quand même, Dominique Sévra, vers ce report de l'euro.
Ah oui, le Parisien sera reporté ou cet hiver, l'hiver prochain, fin de l'année 2020, ou l'été 2021. Il va falloir que trouver. Moi, je considère que l'été 2021, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. C'est toujours l'euro, l'été. C'est fait pour être l'été.
Ouais, parce qu'en décembre, Dominique, il y a des matchs qui se font au Danemark, dans des conditions, dans des climats.
Ça veut dire interrompre les championnats qui sont déjà interrompus. C'est-à-dire que là, on a déjà interrompu la saison 2019-2020. Si on interrompt aussi la saison 2020-2021 avec un euro au milieu,
Pour jouer l'euro en décembre, ça veut dire déjà tout le mois de novembre, c'est rassemblement des équipes, préparation, voyage, etc. Donc ça veut dire que ton championnat, déjà en octobre, il s'arrête. Et il reprend pas avant janvier.
Ça semble impossible. Ça me semble très compliqué.
Rajouter des problèmes.
Si on veut vraiment chercher la petite bête, les bonnes nouvelles pour ceux qui joueraient l'euro plus tard sont les blessés. Non mais si on reste,
j'allais faire une mauvaise blague.
Non mais faut pas faire de mauvaise blague.
Même Fils de Paille n'avait pas besoin de ses blessés.
Ces blessés là, Denis, on n'a aucune certitude que Eden Hazard, par exemple, ne le souhaite pas, ne sera pas re-blessé au moment où
j'en vais. La vraie bonne nouvelle, si l'Euro est reporté, encore qu'on ne sait pas si les JO auront lieu, c'est que peut-être Neymar et Mbappé pourront aller aux Jeux.
Oui.
Et encore.
Si les Jeux sont maintenus.
Si les Jeux sont maintenus.
Il y a plus de chances que les Jeux soient maintenus que l'Euro, puisque c'est après.
Tout à fait.
Denis, honnêtement, là, on est en train de parler de date et tout ça, de compétition. On parlait tout à l'heure des entraînements à 10. On demandait un peu aux entraîneurs, aux préparateurs physiques et à tous ces gens-là, comment ils vont faire dans ce casse-tête pour préparer des joueurs en championnat, en Champions League et pour l'équipe nationale, puisque c'est pas les mêmes staffs.
Mentalement, t'y es plus.
T'y es mentalement, les mecs sont.
Tu regardes tous les jours, tu vois 5000 morts, 10 000 morts, 20 000 morts, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que tu vas t'entraîner?
C'est très compliqué.
C'est très compliqué.
En tout cas, par rapport à l'Amérique du Sud, si ça peut servir comme exemple, il y a aussi les éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Et eux, de leur côté, ils sont décidés de reporter. Normalement, les éliminatoires devaient commencer les 22 mars, donc ils vont attendre que la situation puisse être rétablie. Donc en fait, c'est un peu partout dans les monde qui sont en train de prendre les décisions qui s'imposent.
Et par rapport excusez-moi, je sais que la situation est grave, mais enfin, on est là quand même pour parler. Le mercato.
Le mercato, ça va être
Stéphane Powels.
Pour une fois, les mecs qui, ça me fait un peu sourire, qui vont être en grande difficulté, ça va être les agents. Parce que d'habitude, c'est les rois du pétrole, ça fait monter les enchères à partir d'avril, ça commence à être chaud. Ici, comment voulez-vous à un moment venir revendiquer des transferts? Parce que même le club acheteur qui a envie de prendre un joueur dans un autre club, il n'y aura pas de coup bas dans un contexte de maladie. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas trop. Donc, je pense qu'il y aura très peu de transferts. Tout le monde va rester dans ses clubs.
Le foot, c'est un business un peu cynique.
Peut-être, mais.
Qui a besoin de quand même faire tourner la machine.
Il y a un milieu dégueulasse.
Des couvailles, je reprends l'exemple de Lyon et de Jean-Michel Aulas. Si vous jouez la Ligue des Champions ou si vous ne la jouez pas, si c'est une saison blanche ou si c'est un championnat figé à la 28e journée, ce n'est pas du tout la même chose. Memphis Depay. Si tu joues pas avec des champions, je suis pas sûr que tu le gardes, même si.
Mais ils ont des contrats, les mecs. Hein.
Et puis, pour faire signer des joueurs que tu veux faire venir, quand tu dis à un joueur, tu viens jouer à Lyon, 60 000 personnes, il y a la Ligue des Champions, ou si tu lui dis, il n'y a pas la Ligue des Champions, tu fais pas signer le même joueur.
C'est vrai.
Donc, tant que les décisions ne sont pas arrêtées au niveau des classements des championnats, le marché des transferts, alors à part pour les clubs qui sont sûrs d'être en Ligue des Champions, le PSG, Liverpool, tout ça. Mais sinon, comment tu fais?
On se retrouve dans quelques instants sur RTL pour la suite et la fin d'Orfel Match. Nous parlerons encore de l'euro, possible report. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
RTL, il est 19h39. Le Premier ministre Édouard Philippe tient un point presse du ministère de la Santé. Savez, on l'écoute.
Nous mettons tout en œuvre pour protéger la population et notre système de santé sur le fondement des recommandations de nos meilleurs médecins, de nos meilleurs scientifiques. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est deux choses. D'une part, une accélération de la diffusion du virus et dans certains territoires, une augmentation très importante des personnes en réanimation. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, décrira dans quelques instants la réalité de la progression de l'épidémie. Nous observons d'autre part que les premières mesures prises de limitation des rassemblements sont imparfaitement appliquées. L'immense majorité des scientifiques le dit, la meilleure façon de freiner la progression de l'épidémie, c'est ce qu'ils appellent la distanciation sociale. Je ne vous dis pas que c'est un joli terme. Je sais que c'est un concept qui nous rebute, nous Français, parce que nous sommes un peuple qui aime se rassembler, parce que nous sommes un peuple joyeux, heureux de vivre ensemble. Peut-être même encore un peu plus quand la peur commence à gagner les esprits. Après les annonces du président, jeudi soir, vendredi et encore ce matin, je suis sorti et chacun a pu faire cette expérience. Et nous avons vu trop de gens dans les cafés, dans les restaurants. Cela me réjouirait en temps normal, parce que c'est la France que nous aimons tous. Mais pour quelques semaines, ce n'est pas ce que nous devons faire. Face à l'accélération de la propagation du virus, j'ai à nouveau consulté aujourd'hui, en lien permanent avec le président de la République et avec le ministre des Solidarités et de la Santé, le conseil scientifique installé auprès du gouvernement pour nous accompagner au quotidien dans cette crise sanitaire. Nous nous sommes également coordonnés avec nos partenaires allemands. Sur la base des données rassemblées, des simulations de la progression de l'épidémie et de l'évaluation de l'efficacité des mesures, le conseil scientifique nous a adressé un certain nombre de recommandations qui vont dans le sens d'un renforcement des mesures qui touchent à notre vie sociale. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture à compter de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Les lieux de culte resteront ouverts, mais les rassemblements et les cérémonies devront être reportés. Il s'agit également de tous les commerces, à l'exception des commerces essentiels. Resteront notamment ouverts les magasins et marchés alimentaires, les pharmacies, les stations essence, les banques et les bureaux de tabac et de presse. Tous les services publics essentiels à la vie de nos concitoyens resteront évidemment ouverts. Les transports urbains continueront de fonctionner, mais j'appelle les Français à diminuer leurs déplacements et en particulier à éviter les déplacements interurbains. Les opérateurs de transport public vont progressivement adapter leur plan de transport en ce sens. Je le dis avec gravité, nous devons tous ensemble montrer plus de discipline dans l'application de ces mesures. Ce que nous devons faire en ce moment, c'est tout simplement éviter au maximum de se rassembler, limiter les réunions amicales et familiales, n'utiliser les transports en commun que pour aller au travail et seulement si la présence physique au travail est indispensable, ne sortir de chez soi que pour faire ses courses essentielles, faire un peu d'exercice ou voter. Sur ce sujet des élections municipales, nous avons à nouveau sollicité le Conseil scientifique au regard des dernières évolutions de l'épidémie. Ils nous ont confirmé que le premier tour pouvait se dérouler demain en respectant strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et des personnes fragiles que nous avons rappelées cette semaine. Dans ces conditions, les opérations de vote se dérouleront demain comme prévu et je sais que les Français démontreront à cette occasion leur calme, leur civisme et leur capacité à respecter les règles que nous avons édictées pour leur sécurité. Je voudrais encore faire passer deux messages. Vous l'avez compris, nous devons impérativement limiter les déplacements, les réunions, les contacts. Cela s'applique dans les entreprises et les administrations qui doivent, dès lundi et pour les prochaines semaines, engager une action massive d'organisation du télétravail pour permettre au plus grand nombre de rester à domicile. Nous devons également soutenir nos personnels soignants, les médecins, les infirmiers, tous ceux qui contribuent aux soins, à l'hôpital comme en ville. Tout sera mis en œuvre pour qu'ils puissent exercer leur métier. C'est notamment pour cela que les transports publics continueront à fonctionner et que nous garantirons la garde de leurs enfants. Pour les enfants de soignants, et seulement pour eux à ce stade, les crèches et les écoles organiseront lundi un accueil. Je sais que l'Éducation nationale et les mairies travaillent en ce sens pendant tout ce week-end et je les en remercie. Nous devons rassurer nos soignants. Vos enfants seront accueillis pendant que vous travaillez pour nous, dans de bonnes conditions de protection pour eux-mêmes et pour vous. Progressivement, ce dispositif sera étendu à tous les enfants des personnels essentiels à la continuité de la vie de la nation. Nous devons, mes chers compatriotes, rassurer nos soignants, mais nous devons aussi les aider. En respectant les consignes, les gestes barrières contre le virus et les consignes que je viens de rappeler, vous vous aidez vous-même, mais vous les aidez. Vous les aidez en évitant qu'ils ne soient submergés par l'accueil des cas sévères. Mes chers compatriotes, notre objectif avec le président de la République est de protéger la nation, de vous protéger, chacune et chacun d'entre vous. J'ai conscience des efforts et des sacrifices qui sont demandés. Mais j'ai confiance dans la capacité des Françaises et des Français à comprendre la gravité du moment et à adopter tous ensemble les comportements civiques, responsables et solidaires qui nous permettront de surmonter cette crise. Je vous remercie et je vais passer la parole au professeur Salomon.
Mesdames et messieurs, fin janvier, l'Organisation mondiale de la santé déclarait une urgence de santé publique de portée internationale devant l'épidémie de Covid-19. Début mars, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé confirmait que nous étions face à une pandémie. Aujourd'hui, nous avons plus de 153 000 cas de Covid confirmés, 72 000 guéris. La Chine représente 53% de ces cas et hors de Chine, l'épidémie est très rapide, 72 000 cas, c'est-à-dire près de 47%. Nous avons 140 pays touchés, l'Iran, la Corée du Sud, mais vous savez que désormais, l'Europe est l'épicentre de l'épidémie. L'Europe, ou le pays le plus touché en nombre absolu après la Chine, mais aussi en taux d'incidence, en nombre de cas par habitant, est l'Italie avec 21 000 cas, puis l'Espagne avec 6 000 cas, et en Allemagne, nous avons plus de 4 000 cas. En termes de décès, nous approchons les 5 800 décès, dont 3 200 en Chine et 2 500 hors de Chine. Les pays les plus touchés en dehors de Chine sont l'Italie, 1441 décès, l'Iran 611, l'Espagne 191. En France, Nous sommes face à une épidémie nationale débutante avec une circulation virale rapide et intense dans de nombreuses zones du territoire national. Ce stade 3, qui nécessite désormais qu'on atténue et qu'on décale au maximum les effets de la vague, est vraiment basé sur un renforcement des mesures barrières. Nous évoluons vers une épidémie généralisée dans les tout prochains jours, mais tout va dépendre du comportement du virus et surtout du respect par les individus et par la collectivité des mesures barrières. Il n'y a à ce jour pas suffisamment de prise de conscience par les Françaises et les Français de l'importance de leur rôle face au virus. C'est urgent, c'est maintenant qu'il faut changer de comportement. Vous le savez, côté santé, le plan blanc généralisé a été déclenché dans toute la France, avec pour conséquence la mobilisation de l'ensemble des professionnels de santé, mais surtout la déprogrammation sur toute la France de l'ensemble des actes non urgents. En dehors des 157 établissements de santé mobilisés en première ligne et des milliers de tests qui sont réalisés depuis le début de l'épidémie, nous avons mobilisé aussi tous les établissements médico-sociaux qui sont en plan bleu au niveau national. Nous avons mobilisé les réanimateurs et l'ensemble des équipes de réanimation pour anticiper l'arrivée en grand nombre de cas graves. Et nous avons mobilisé au plan national la réserve sanitaire en faisant un appel très large à l'ensemble des étudiants des professions de santé ainsi que des professionnels retraités. Et enfin, pour que tout le monde soit informé en temps réel, j'insiste encore sur l'importance de l'inscription de l'ensemble des professionnels de santé au DGS urgent, qui les informe en temps réel et qui leur donne des conduites à tenir. Ce jour, nous avons 4500 cas confirmés par PCR en France. Ce chiffre de 4500 a doublé en 72 heures. Ça vous donne une idée de la rapidité d'évolution de l'épidémie en France. Toutes les régions métropolitaines sont concernées, ainsi que la Guyane, la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et désormais Mayotte. Les six régions les plus touchées sont la Corse, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous comptons désormais ce soir plus de 300 cas graves en réanimation. Nous avons des formes graves aussi chez les adultes, puisque je vous rappelle que plus de 50% des personnes en réanimation ont moins de 60 ans. Enfin, nous déplorons 91 décès, dont 71 personnes ont plus de 75 ans. Je rappelle un message quand même important, 98% des personnes guérissent de cette maladie, mais nous devons absolument nous mobiliser dès maintenant pour répondre aux besoins en ville et pour répondre à la prise en charge des personnes les plus graves. Cet appel à la solidarité nationale qui a été lancé à la fois par le président de la République et par le Premier ministre nous oblige dès ce soir à protéger immédiatement toutes les personnes les plus fragiles et les plus âgées. Vous savez que toutes les visites ont été suspendues dans les établissements de type EHPAD et dans les unités de soins de longue durée. Mais nous avons aussi appelé à ce que les personnes de plus de 70 ans et toutes les personnes fragiles ayant une pathologie chronique, un diabète, une insuffisance rénale, une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, une chimiothérapie, restent confinées à domicile et ne sortent que pour des raisons impérieuses. Les mesures barrières doivent vraiment être acquises très vite par l'ensemble de la population. Je voudrais rappeler un fait très important. Le virus ne circule pas en France. Ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler. Lorsque l'on est malade et que l'on est isolé à la maison ou à l'hôpital, personne ne rentre en contact avec vous. Il n'y a pas de passage du virus en interhumain. Lorsqu'un enfant porteur ou un sujet asymptomatique reste à la maison, réduit drastiquement ses contacts, le nombre de passages du virus d'une personne à l'autre s'effondre. À chaque fois, il y a un rationnel scientifique aux mesures que nous proposons et des avis d'experts, comme l'a rappelé le Premier ministre. Les mesures sont proportionnées et progressives face à la situation épidémiologique qui est très évolutive. Quelques conseils de bon sens. Lorsque vous avez une maladie bénigne, c'est-à-dire juste un peu mal à la tête, une angine, quelques douleurs musculaires, un peu de fièvre, la seule chose à faire est de rester confiné à la maison. Ne pas surcharger les appels au centre 15, ça n'a pas de sens. Le 15 est réservé aux urgences vitales ou aux détresses respiratoires. Et donc, vraiment, des mesures de bon sens. On reste à la maison tant qu'on est symptomatique et si besoin, on appelle son médecin pour avoir un conseil. Nous devons faire donc bouclier de la nation pour les personnes âgées et les personnes les plus fragiles et montrer notre capacité de solidarité entre générations. Nous devons nous mobiliser en ville pour ne pas surcharger les professionnels de santé. Nous devons nous mobiliser à l'hôpital pour éviter la vague trop haute pour les réanimations. Il s'agit donc d'anticiper dès maintenant, d'être tous responsables face à un contexte totalement inédit et très évolutif. Le Premier ministre a appelé au sens civique des Françaises et des Français, au calme, à la sérénité, au sérieux et à la gravité face à la situation. Il est donc absolument impératif d'être très attentif aux consignes officielles qui seront données par les agences régionales de santé, par les médecins hospitaliers, par vos médecins traitants, en fonction de la situation épidémiologique locale, qui peut être très sévère avec une circulation intense, intermédiaire avec un début de circulation, ou encore émergente comme dans certaines zones du territoire. Quels sont les conseils pour toute la population, pour la population générale, appliquer ce soir et faire appliquer les mesures barrières? Cette fameuse distanciation sociale, cette fameuse distance d'un mètre entre chaque individu, il faut l'appliquer, de même qu'il faut réduire drastiquement l'ensemble de ces contacts. Aucune réunion inutile, aucun déplacement inutile. On privilégie le télétravail. Les établissements scolaires, vous le savez, seront tous fermés à compter de lundi et il faut donc réduire toutes ces activités non indispensables. Pour les sujets fragiles, les sujets malades, les sujets de plus de 70 ans, restez confinés à domicile, ne recevez pas, ayez le minimum de sorties, les sorties réduites à l'essentiel et n'ayez pas de contact avec des enfants. Si vous êtes malade sans gravité, restez confiné une semaine jusqu'à guérison clinique, ne sortez pas, n'ayez pas de contact et faites un appel si besoin à votre médecin traitant ou ayez recours à des téléconsultations ou à des télé-expertises. Votre compagnon, votre compagne, vos enfants qui vivent à domicile doivent aussi rester confinés. Vous surveillez votre évolution clinique, vous ne prenez pas d'automédication, pas de corticoïdes, pas d'anti-inflammatoires sans avis médical, on demande conseil à son médecin traitant avant tout traitement. Si la situation évolue mal, si vous respirez mal, alors il faut appeler le 15. Enfin, pour les professionnels de santé, je souhaite saluer leur mobilisation maximale sur l'ensemble du territoire. Ils ont un comportement remarquable à l'hôpital comme en ville et nous devons être tous extrêmement civiques, appliquer les mesures de bon sens pour leur laisser accès aux masques. Je vous remercie.
Voilà, c'était le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Vous avez entendu également les directives du Premier ministre Édouard Philippe. Vous êtes sur RTL, il est 19h57. À tout de suite.
Bon chéri, on y va.
Merci à vous tous de votre fidélité à Orphel Match. Merci à Stéphane Powell, Cindy Colmenares, Eric Silvestro d'RTL, Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France et David Aiello. À bientôt sur RTL. Bonne soirée.